Et on voulait donner la parole d'abord à Charles, parce que dans son article, il fait justement ce panorama un peu complet des formes et des formats de. Voilà, on ne va pas faire un exposé long, parce que tout le monde pourra aller lire l'article ensuite, hein, il n'y a pas de problème. Mais au moins donner quelques éléments de définition de ce que ça recouvre dès qu'on parle de collaboration ou de recherche collaborative.
D'abord, merci beaucoup Régis et Patrick pour l'invitation à participer à ce numéro et puis pour l'invitation ce soir. Alors, juste pour resituer mon travail de recherche, moi j'étudie les recherches collaboratives sous l'angle de la motivation des chercheurs et des enseignants à y participer, et j'essaie de comprendre ce qui fait qu'ils vont s'engager durablement ou pas dans ces recherches. Et mon premier point, quand j'ai commencé ma thèse, c'est que je me suis dit, oh, c'est super chouette ces recherches collaboratives. Donc j'ai commencé à lire. Et puis je me suis dit, en fait, c'est un champ, pour reprendre la formule de Ginati et Morissette que j'aime bien, c'est un champ encombré et chaotique. Parce qu'il y a une diversité d'appellations. Au moment où je m'étais amusé, en une semaine, j'en avais compté une trentaine. Et je me suis dit, comment je vais faire pour étudier des recherches diverses si je n'ai pas des choses pour les catégoriser, pour les comparer. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancé un peu dans, c'est la première partie de ma thèse, dans ce travail pour essayer de catégoriser les recherches collaboratives. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est, puisque j'étudie la motivation et l'engagement, c'est ce qui se passe à l'intérieur des recherches collaboratives. Donc, je me suis intéressé à leur processus. Et au regard de ce que j'ai trouvé dans la littérature, j'ai entendu ce processus avec deux angles, c'est-à-dire les activités qui sont faites dans ces recherches, et puis la participation des acteurs, puisque ces activités, elles sont bien faites par des enseignants et des chercheurs. Ça, tout ça dans le temps. Et donc, bon, j'ai étudié 25 projets en tout de recherche collaborative. Et le premier résultat auquel on a abouti, c'est qu'on s'est rendu compte que dans l'ensemble des projets de recherche collaborative, il y avait trois grandes étapes par lesquelles ces projets passaient et qu'on a représenté, vous pourrez retrouver, il y a le schéma dans l'article, sous forme d'une boucle, c'est-à-dire qu'il y a l'étape, je parlerai ensuite des points d'entrée, mais il y a l'étape des pratiques, c'est-à-dire ce qui est fait dans le contexte réel, très souvent c'est la classe qu'on étudie dans le cadre des recherches collaboratives, il y a une étape qui relève de l'analyse. Alors là, les chercheurs, quand on les interroge, ils nous disent plein de choses, le recueil des données, des dispositifs d'analyse de pratique, l'évaluation des effets d'un dispositif qui a été mis dans la classe. Donc, c'est cette deuxième étape de l'analyse. Et la troisième étape, c'est celle qu'on a appelée conception, c'est celle qui vise à préparer des nouvelles pratiques pour la classe. Voilà, on a une boucle avec pratique, analyse, conception. Mais, donc ça, c'était, on s'est dit, dans toutes les recherches, il y a ces éléments-là. Mais ce qui va les différencier, c'est leur point d'entrée. C'est-à-dire, il y en a certaines qui vont rentrer plutôt par l'étape de conception. Et je pense que dans le numéro de la revue de diversité, ça fait que deux jours qu'il est sorti, donc je n'ai pas eu le temps de lire les 250 pages. Mais par exemple, dans les travaux de Karine, il me semble qu'on rentre plutôt par l'étape de conception, c'est-à-dire qu'on va d'abord concevoir des situations éducatives pour ensuite les mettre en place dans la classe, les analyser, et puis la boucle, elle va recommencer. Pareil, si on lit l'interview de Grégoire Borst, et c'est ce qu'il fait également en sciences cognitives, il rentre d'abord par l'étape de conception, il conçoit des pratiques basées sur les résultats de la recherche, il les teste, il les analyse, etc. Et puis, il y a d'autres recherches qui vont plutôt rentrer par l'étape des pratiques, c'est-à-dire ce qui se joue déjà sur le terrain, et donc ensuite, qui vont analyser ces pratiques pour ensuite les reconcevoir différemment, puis les remettre dans la classe, et ainsi de suite. Il me semble, je ne sais plus si c'est dans l'article de Marion ou de Valérie, mais on voit bien que c'était centré sur cette étape d'analyse des pratiques. Et j'ai fait l'hypothèse qu'on rentrait d'abord par ce qui se passait dans la réalité, dans la classe, on analyse, et puis ensuite ces analyses elles vont permettre aux enseignants d'agir différemment dans leur classe. Donc ça, c'était pour les deux résultats liés aux activités qui sont faites dans la recherche collaborative. Peut-être que plus tard, on pourra parler de la participation.
Karine était... retrouve dans ce qui a été décrit.
Oui, tout à fait. Je dirais que ouais, j'ai au-delà de la conception, en fait, après, c'était aussi l'idée d'organiser en fait finalement le travail de manière à ce que cette conception en fait ne soit pas en fait pilotée par la recherche, ni simplement aussi pilotée par les pratiques.
D'où l'intérêt après d'étudier la participation.
Voilà. En fait, ça fait aussi partie des difficultés qu'on discutera ensuite. Je dirais que la première étape dans cette conception, c'est d'arriver à constituer une communauté de pratiques pour développer de pratiques différentes des pratiques dans la classe, différentes des pratiques du chercheur sans les enseignants. Enfin, je ne sais pas trop ce que c'est dans ma discipline, un chercheur sans enseignant, mais ça, c'est encore un autre problème. Et donc, une fois qu'on a constitué cette communauté de pratiques, c'est d'arriver à adopter un fonctionnement qui permettent aussi un positionnement qui ne soit pas hiérarchique entre les chercheurs et les enseignants, même si ça c'est quelque chose de très difficile parce que le monde de l'éducation nationale fonctionne par ces hiérarchies en fait implicites. Certaines sont très explicites, mais d'autres le sont moins. Le plus possible, mais on va voir que en fait ce n'est peut-être pas souhaitable, c'est de trouver une symétrie en gros dans la coopération. Et voilà, alors, parce qu'en fait, beaucoup de gens cherchent en fait à ce qu'il y ait quelque chose de symétrique. Et est-ce que c'est vraiment une bonne idée que de faire quelque chose de symétrique quand justement on cherche à faire ensemble plus que ce qu'on ferait chacun dans son coin ?
Léo, du coup, est-ce que cette. Alors je pense que justement, je fais la transition avec symétrie par rapport à cette relation avec deux chercheurs et de trouver sa place. Voilà, comment ça serait. Comment tu pourrais la caractériser du coup par rapport à ce qui vient d'être dit ?
Effectivement, j'ai obtenu de la tête lorsqu'on entendait lorsqu'on caractérisait l'éducation nationale et de hiérarchie implicite, parfois d'ailleurs explicite. Mon grand bonheur, ça a été de travailler avec Benoît, vous l'avez dit, un professeur général, historien et surtout grand spécialiste du premier degré, ayant donc un profond respect pour les enseignants, pour la pédagogie, et de travailler aussi avec Jérôme Peut, sociologue, qui a été enseignant dans le secondaire. Et assez vite, c'est vrai que ce qui a été moteur pour moi, c'est le sentiment que, de par leurs premières approches, parce qu'ils avaient déjà lancé une première réflexion sur la conception de cet ouvrage, ils ont eu le sentiment très vite de la nécessité de vraiment mettre en œuvre une transposition. Pour faire court, Jérôme, il avait déjà tenté des ateliers sociologiques dans une école de Nanterre, et il s'était confronté à certaines difficultés de par le fait que certains élèves étaient bloqués sur certains mots de vocabulaire. La séance qu'il avait prévue en une heure, en deux, trois finalement. Et en fait, ce qui nous a rassemblés, c'est justement une certaine horizontalité, une certaine confiance. Benoît, c'est quelqu'un qui a été très à l'écoute de mon parcours. Hein. J'ai été enseignant, formateur, j'ai travaillé à l'IFP et j'ai été en demande. C'est vraiment pour moi un mentor, je dois dire. C'est quelqu'un d'ailleurs qui est connu pour faire dans ce milieu que de savoir accompagner les enseignants. Et de valoriser leur travail, de mettre en lien ces enseignants avec justement des chercheurs. Et c'est ce sentiment de confiance qui nous a permis vraiment de travailler ensemble. Et pour conclure, je crois qu'on était aussi très raccord sur l'importance, sur les enjeux finalement, sur ce qui nous portait de façon commune à tous les trois. Et c'est aussi ce qui a permis d'établir cette collaboration, c'est qu'on était tous les trois portés par des enjeux, on pourra y revenir peut-être, mais ça me semble important. Voilà, on partageait vraiment les objectifs qui étaient sous-jacents à la rédaction de cet ouvrage.
Oui, pour témoigner d'une entrée par les pratiques, pour donner à voir un peu comment on en vient à s'intéresser aux pratiques, parce que comme le disait Karine, la recherche en éducation sans les praticiens et sans les élèves, ça paraît assez incongru. Donc, en tout cas, on peut avoir le sentiment, moi je ne suis pas une chercheure depuis très longtemps, mais on peut avoir le sentiment parfois qu'on vient regarder ce qui se passe avec des enseignants-enseignantes qui nous accueillent et qui sont tout à fait ravis qu'on vienne voir leur travail. Et puis, bah, comme on est sociologue, nous, on a tendance un peu à dégommer après, à dire « Oh, ça ne marche pas très bien, les élèves n'apprennent pas très bien, etc. » Et c'est vrai que la recherche qu'on a menée avec Patrick, Valérie, avec toute l'équipe de Reseda, elle partait un peu de ce constat en se disant que ben, peut-être que en intervenant parfois un peu, même si c'est dans la durée, en n'ouvrant pas suffisamment la porte des pratiques et des praticiens de ce qui pouvait être donné, avoir comme difficulté qu'ils rencontraient au moment de la mise en place, peut-être que de ne pas s'y intéresser suffisamment nous faisait louper des éléments. Et effectivement, du coup, on a mis en place plusieurs recherches dans différents groupes de disciplines. Des recherches collaboratives avec l'idée de travailler main dans la main avec des enseignants-enseignantes, mais peut-être un peu bisounours du coup au départ, et ne se rendant pas nécessairement compte des difficultés qu'on pouvait rencontrer. Une difficulté qui est de l'ordre de la. Effectivement, je ne sais pas si c'est de la symétrie ou de l'apostrophe asymétrie. Et puis, dans cette asymétrie, nous, ce qui a été particulièrement difficile, c'était le rapport au temps. C'est-à-dire que ce que dit un des enseignants qui a écrit l'article avec moi sur le groupe de sciences, il dit, bah, nous, on est dans la seconde et la minute quand vous, vous êtes dans le mois. Et c'est vrai que bah, nous, on prend le temps d'enregistrer tout ce qu'on travaille, de regarder, d'écouter les élèves. Ça prend du temps de tout transcrire, de tout regarder, de tout étudier. Eux, ils retournent en classe le lendemain. Donc, du coup, de temps en temps, on a eu des échanges. Vous disiez, bah, alors les chercheurs, qu'est-ce que vous en dites, hein? Ah, bah, on fait ce qu'on peut, on essaye d'en dire quelque chose, mais on n'a pas le temps là tout de suite maintenant. Donc, ça, ça a pu être parfois difficile.
Ouais, je crois qu'effectivement, penser une sorte de boucle entre conception, pratique ou formation et recherche, ben, évidemment, tout le monde se dit que c'est une bonne manière de pouvoir faire le point entre ce que le formateur ambitionne de faire, ce qu'il fait vraiment, mais le temps nécessaire pour la recherche, si elle veut être rigoureuse et si elle veut passer, comme par exemple nous on l'a fait, par des retranscriptions et du codage ensuite des échanges pour regarder, on pense qu'on parle de la même chose, mais est-ce que vraiment on parle de la même chose, est-ce qu'on saisit l'activité de la même manière, et est-ce que vraiment il y a quelque chose qui se co-construit, eh bien le temps qu'on arrive à analyser tout ça et à faire un retour, effectivement les enseignants, alors on a beaucoup rigolé avec une séquence de géographie qui s'appelait Océan, on a fait l'analogie avec le film, évidemment, et en gros, nous on était à Ocean 1 et eux ils étaient déjà Ocean 3 ou 4, et donc du coup il y a un vrai découplage entre le temps nécessaire à une recherche rigoureuse, donc il faut vraiment se poser la question comment la recherche peut informer les pratiques, et est-ce que c'est pas dans une autre temporalité que celle dont les praticiens ont besoin pour penser, concevoir et reconcevoir leur séquence didactique.
Alors, Gilles Herrero, puisque en fait, on a fait une interview avec enfin, des collègues, en tout cas, qui sont ici. On fait une interview avec vous et Bruno Milly en lien avec l'ouvrage que vous avez publié chez RS, voilà, sur l'intervention sociologique. Et finalement, vous insistez beaucoup sur des formes d'asymétrie, si je veux filer un petit peu le lien, mais de la difficulté quand même de dialoguer et de construire quelque chose avec des collectifs. Dans le cadre de cette intervention, puisque vous utilisez, dans votre pratique en tout cas, le mot d'intervention du chercheur qui vient intervenir.
Donc, ce que je peux essayer de dire en guise d'introduction, préciser par rapport à ce qu'a dit Régis tout à l'heure, je suis émérite, ce qui ne veut pas dire que j'ai du mérite, ce qui veut dire que je suis très vieux, et donc que je roule ma bosse dans l'univers organisationnel depuis plusieurs décennies. Et tout ça pour introduire un propos un peu désabusé que je vais vous livrer. C'est-à-dire qu'il y a la fougue de la jeunesse qui croit beaucoup en toute une série de postures. Et puis il y a le côté un peu désabusé qui est bien aujourd'hui, c'est le propos que je vais tenir. J'ai commencé à pratiquer l'intervention. Alors évidemment, j'ouvre une parenthèse, je déteste vos collaborations. Non seulement parce qu'il est chargé historiquement, mais parce que ceux que je croise dans les organisations les plus violentes qui soient, des managers totalement effrayants dans leurs attitudes, ils ne cessent de parler de leurs collaborateurs. Ils adorent évaluer sur leurs projets innovants. Et donc tout ce vocabulaire-là, si vous voulez, je le vomis profondément. Je ne dirais pas par quatre choses. Donc moi, ce que j'essaye de pratiquer, c'est l'intervention. J'ai commencé il y a très longtemps au Minguette, il y a une trentaine d'années, dans des espaces qui étaient extrêmement compliqués déjà, et puis j'ai continué dans des univers organisationnels extrêmement divers. J'ai une définition avec mon collègue Bruno Milly de l'intervention que je vous livre, vous en faites ce que vous voulez, mais ça permet de cadrer un peu l'espace. L'intervention, c'est une pratique qui conduit le spécialiste de sciences sociales à intervenir sur la base d'une commande et d'une demande parmi des acteurs, dans la perspective d'établir avec eux une relation d'aide, appuyée sur du cognitif et sur du psycho-affectif. Le tout sur fond d'une posture politique. Alors, j'ai évidemment pas le temps de définir toute cette affaire, mais ça nous emmène un peu loin de l'idée de collaboration. Donc, je n'interviens pas dans les établissements scolaires spécifiquement, j'interviens un peu partout. Il m'est arrivé d'intervenir dans des établissements scolaires. J'ai une multitude d'anecdotes à pouvoir vous raconter. J'en livre une seule, rapidement. C'était il y a une quinzaine d'années, dans des lieux proches d'ici, où je travaillais avec l'Institut Savary sur les programmes de réussite éducative. Vous les connaissez mieux que moi, j'avais produit à l'époque un rapport sur cette question. Et donc pendant un an, j'ai accompagné des professionnels, des gens de quartier, des enseignants, des éducs, enfin toutes sortes, tout le spectre de ceux qui interviennent quand il y a des populations qui sont en grande difficulté. Et j'avais conclu cet accompagnement d'une année durant par un petit film qui s'appelait « Était une fois une chaise ». Je vous fais le résumé, il fait 7 minutes, ça va très vite. On voit quelqu'un qui veut s'asseoir sur une chaise, la chaise se refuse, il lui court après 7 minutes durant, et il finit par l'attraper, après avoir mimé la chaise, c'est-à-dire essayer de lui ressembler, pour que la chaise consente, voyant qu'il y avait une proximité, à se laisser utiliser comme chaise. Après, s'être d'ailleurs assis sur... Bon, bref, c'est difficile à visualiser, mais on tourne autour de quelque chose de sûr. Et puis ensuite, commentaire. Et les enseignants qui étaient là, ou les éducs, d'y aller de objet inanimé, avez-vous donc une âme, ou bien acteur, actant, la théorie de l'acteur réseau chez Bruno Latour, tout ça était extrêmement intéressant. Et puis on avait une parente d'élèves qui était là, une mère, en situation difficile, avec tout ce que ça comporte. Pendant un an, on avait bien vu la difficulté qui était la sienne. Et elle conclut, après qu'on ait travaillé un an ensemble, moi, ce que je tire comme conclusion de votre affaire, c'est qu'à la fin, on posera son cul sur toi. Bon, on n'était pas exactement au même endroit, après un an de travail dit collaboratif, si vous voulez. Et c'est tout un enseignement que je retrouve un peu partout, j'y reviendrai un jour.
Alors merci. La question qu'on voulait aborder avec vous, qui est arrivée petit à petit sur la difficulté, puisque on avait dit le deuxième temps, c'était autour de la collaboration, n'est pas un long fleuve tranquille. Donc on vient en voir une illustration aussi, même si l'approche est un peu différente. Alors peut-être en commençant, je ne sais plus ce qu'on s'était dit, qui pouvait commencer sur le long fleuve tranquille ou pas. De la participation, de la collaboration, je crois que c'était Carrie. Donc voilà, en essayant de pointer ce que vous avez évoqué un petit peu, tout en tout cas que Marion et Valérie avaient évoqué aussi tout à l'heure.
Après, la question c'est si la collaboration n'est pas un long fleuve tranquille, mais pourquoi donc en fait on s'acharne alors on s'acharne parce que, un peu ce que disait Marion tout à l'heure aussi, hein, c'est que faire de la recherche en éducation sans travailler avec les praticiens ou les élèves, en fait, est-ce que ça a un sens, hein? Moi, ça fait quelques années, donc mes objectifs à travers la collaboration avec les enseignants, et j'assume le terme, en fait, on est énormément variés. En fait, y a eu des moments, effectivement, c'était pour concevoir quelque chose où j'avais l'impression, en fait, je me sentais investie en fait, d'une mission avec tous les savoirs en fait, que j'avais pu accumuler, d'en faire bénéficier en fait, la communauté en fait, ignorante des praticiens. Ça, c'était quand j'étais jeune, hein, je précise. Depuis, en fait, j'ai aussi vieilli. Je ne sais pas si je faisais partie de la fougueuse jeunesse, mais bon, ça m'a touchée. Donc. Oui, non, mais je sais bien, donc je le prends en tant que tel. Et là, plus récemment, en fait, moi, ce qui m'interpelle, c'est que ça fait quand même pas mal d'années que je travaille avec des praticiens, donc certains veulent toujours travailler avec moi, donc je me dis que la collaboration ne doit pas être si difficile que ça, je ne me suis pas trop assise sur eux. La question qui me taraude depuis un moment, quand même, cette difficulté, c'est que on a fait des tas de choses, on leur a communiqué des résultats de recherche, qui portent sur leur pratique, hein, quand même. Et puis après, on leur propose des espèces de guides pour essayer d'aider. Enfin, nous, ça nous a interpellés en termes de recherche, donc on a aussi élaboré des savoirs qui sont plus proches des praticiens. Et puis quand ils travaillent en autonomie, ben, en fait, ils font tout sauf ce qu'on a décidé de faire ensemble. En fait, en gros, en fait, ils travaillent bien avec les résultats de la recherche quand on est là pour piloter. Et quand on n'est plus là, comme les élèves, ils ne lisent pas la consigne. Ah bon, peut-être que ce n'est pas vraiment des consignes non plus. Hein. Et moi, ce qui m'interpelle depuis quelques années, c'est de dire, en fait, finalement, comment on peut essayer de travailler sur des espaces qui permettent d'articuler ou de mieux comprendre comment circulent ces savoirs, et je ne dirais pas de la recherche, mais aussi de la pratique, parce que ce que disent peut-être pas les praticiens, c'est que peut-être que les chercheurs aussi ont tendance, de temps en temps, à oublier tout ce qu'ils ont mis en fait, sur la table, quand on était autour de la table, pour qu'on prenne mieux en compte, finalement, les contraintes et puis les opportunités de leur métier. Donc, je travaille beaucoup maintenant, en fait sur ces obstacles, à travailler sur les traces, en fait, de nos activités collaboratives, pour avoir derrière un argumentaire des savoirs qui sont mobilisés, mieux comprendre comment ils émergent, comment ils circulent, comment ils meurent, ou comment, au contraire, tout d'un coup, en fait, ils vont prendre une importance énorme dans le groupe. avec ces problèmes de temporalité en fait, qui ont été nommés. C'est-à-dire, effectivement, les enseignants voudraient qu'on donne tout de suite la réponse, mais en fait, on n'y arrive pas. 2 ans après, 3 ans après, la thèse n'est toujours pas là. Avec des habitudes de travail qui sont très très différentes entre chercheurs et enseignants. Et là, peut-être que je n'aurai pas le temps de le dire après, mais de temps en temps, quelques maladresses, y compris de ma part, c'est-à-dire qu'on est quand même aussi enseignant, mais on est enseignant dans le supérieur. Et quand on commence à dire, oh, mais moi je suis enseignante, on voit bien à leur mine un petit peu d'enseignante, mais enfin, bien enseignée en collège avec moi. Voilà, avec des objectifs qui sont différents entre chercheurs et enseignants, mais c'est ce que disait Léo, quelque chose de très très fort en fait. Qui aide à comprendre comment ces savoirs circulent, c'est qu'on a un enjeu commun. Et je pense que la conception, en fait, en gros, elle répond à cet enjeu commun aussi, derrière, qui transcende un petit peu nos objectifs différents. Donc, voilà,
Donc je redonne la parole à Léo qui est à distance sur les difficultés rencontrées. Alors, je ne pense pas que ce soit des difficultés, puisque là, il y avait un projet éditorial, donc quelque part, la route n'était pas tracée. N'empêche qu'elle n'était peut-être pas aussi simple que ça.
Effectivement, on a eu, ce que raconte l'article, on a eu des difficultés d'organisation. Je ne sais pas si ce sera passionnant de les évoquer ici, puisque chacun avait un emploi du temps bien chargé. Mes deux co-auteurs s'accordent pour le dire, mais c'est vrai que peut-être là, ce sera intéressant, justement. Ils s'accordent pour dire que j'ai été assez moteur. Pour moi, en tant qu'enseignant, je n'avais pas encore passé le CAPIPEM pour devenir formateur. Je sortais d'études universitaires au niveau M2, donc peut-être quelque chose d'assez... c'est pas encore très avancé, j'avais initié à la sociologie. Et là, Benoît m'appelle et je comprends que c'est un projet qui est assez vieux, puisque déjà Durkheim, me paraît-il, hein, moi j'ai découvert ça en écrivant, parlait de la nécessité d'écrire cet ouvrage. Ensuite, Bernard Lahire, en 2012, écrit une tribune en évoquant la nécessité d'initier les enfants aux sciences sociales. Et oui, ça a été assez simple. En fait, encore une fois, je crois même, enfin, pour faire écho à vos réflexions, ce qui nous a rassemblés, c'est aussi de partir de la conception d'un outil. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il y avait un sentiment de jugement. On écrivait pour d'autres enseignants. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je faisais. Et peut-être que, je vais même appliquer à l'utilisme, mais pour des enseignants qui travaillent avec des chercheurs, de concevoir des outils pour soi, mais aussi pour d'autres, d'avoir une objectivation, je pense que ça permet de mettre d'égal à égal, de clarifier un peu le contrat de collaboration. En tout cas, moi, ça a été extrêmement valorisant et j'ai senti toute ma place lorsque j'ai eu à faire cette transposition, c'est-à-dire que j'avais saisi les enjeux épistémologiques, scientifiques, et tout mon travail, ça a été de déplier, de déconstruire une notion sociologique pour amener de manière très progressive ses connaissances aux élèves de cycle 3. En fait, au départ, Jérôme, il était tenté, on a une séance sur le football. Comment on devient supporter, d'où viennent les affects qu'on peut observer dans un stade, mais aussi dans une cour de récréation. Et il m'avait envoyé une ébauche en me disant, voilà, moi j'avais mis mes élèves là, de Nanterre, que j'évoquais tout à l'heure, en situation de faire une petite enquête. En gros, ils rentraient à la maison, et demander à leurs parents, est-ce que vous avez des écharpes, est-ce que vous affectionnez tout particulièrement un club. Et quand j'ai vu ça, je suis tombé de ma chaise. Je me suis dit, mais on ne peut pas commencer un manuel avec des enfants qui n'ont aucune connaissance sociologique de la sorte, en les mettant finalement de manière un peu démagogique, tout de suite en action, de façon à ce qu'ils produisent des données. Et là, quelque part, ça m'a conforté dans la place et dans le rôle que j'avais à endosser, c'est-à-dire que non. On a fait un manuel scolaire, je pense, assez proche des pratiques et assez honnête sur le plan intellectuel. On n'a pas renié sur les enjeux scientifiques, mais j'ai vraiment eu un rôle, une place à prendre sur la façon de déconstruire et de faire une réelle progression qui fait vraiment le fil rouge de cet outil. Donc, encore une fois, je dis ça, je pense, un outil partagé, pas directement peut-être pour la pratique immédiate de l'enseignant, mais pour une pratique plus globale, pour d'autres enseignants, pour des collègues, peut permettre une juste place pour chacun.
Oui, si je peux me permettre, Léo, une question qui pour pousser un peu là. En tout cas, mon propre questionnement, est-ce que, enfin, il me semble que nous sommes là dans la production d'un manuel, mais tu l'as dit toi-même, dans un produit de nature un peu différente de celui que celui d'une recherche, parce que d'une certaine manière, on sait où on va, et que je crois que vous avez su trouver votre place. Ce qui ne veut pas dire que c'est simplement de la collaboration. Alors, j'ai bien entendu les critiques qu'on peut faire à ce terme-là. C'est Sylvain Connac distingue. Alors, il ne le fait pas comme dans les autres pays du monde, donc c'est un peu compliqué. La collaboration et la coopération. La collaboration, en gros, si j'ai bien compris, c'est les gens arrivent avec ce dont ils sont porteurs chacun et ils le mettent en commun, mais ce n'est pas pour ça que ça les transforme. Et la coopération, c'est que les gens arrivent en effet avec des choses qui sont communes, mais ils en sortent un peu différents. Alors, c'est un peu la question que je voulais poser à Léo, à laquelle, à mon avis, il est en train de commencer à répondre, parce que je crois que ça l'a fait prendre conscience de choses qu'il ne savait pas qu'il savait, dans ce qu'il a été capable de faire avec les deux autres. Et une autre remarque, moi je suis toujours frappé par la façon dont, je reviens à mon histoire de tache d'huile, hein, qui est un peu obsessionnelle chez moi, et là, Jean-Louis Martinant théorise cette question en disant, voilà, la tache d'huile, évidemment, ça ne marche pas, parce que la diffusion des recherches, ça se fait par reproblématisation, ça se fait pas par simplification, par mettre des mots plus simples sur des mots compliqués ou des phrases avec juste trois verbes, enfin ou un verbe et deux compléments, voilà un sujet. C'est quelque chose qui suppose qu'on soit capable de traduire dans des termes de praticien des choses que le chercheur traduit dans des termes de chercheur et la réciproque d'ailleurs. Et il me semble que là, c'est à ça que vous arrivez parce que on est dans un cas d'un bouquin qui fait une transposition. Avec tous les ingrédients, je dirais, enfin, je ne sais pas si tu partages cette interprétation, d'un côté, il y a quelqu'un qui est garant des savoirs scientifiques qui s'élaborent à l'université, voilà, c'est son job, il a été formé pour ça et payé pour ça, mal mais payé. Il y a un inspecteur qui est garant du cadre institutionnel de ce que c'est l'éducation nationale, et puis un praticien qui dit, mais attendez, vous rêvez, les élèves, ils ne vont pas avaler ça tout de suite. On a une double transposition interne, je dirais une transposition externe. Et là, je trouve que c'est assez, assez merveilleux et que par-delà ce cas, on devrait en tirer des leçons pour fabriquer des manuels en général. Voilà.
Moi, je trouve assez intéressant ce que vous amenez là. Mais de nouveau, pour autant qu'on considère... est-ce qu'il y a équilibre ou voire équité dans la relation? Ce qu'on voit en tout cas, nous, quand les enseignants travaillent avec les chercheurs, c'est autant les chercheurs ont une exigence par rapport, on va dire, aux pratiques mises en œuvre par les praticiens, de passer d'une pratique singulière à une sorte de problématisation un peu élaborée par des théories pour penser ce qu'ils font dans leur classe, autant on ne retrouve pas toujours dans l'autre sens un vrai travail du chercheur qui, lui, à partir de ses objets théoriques, essaie de les retraduire dans les mots du praticien et va jusqu'à montrer leur opérationnalisation assez concrète qui pourrait en être faite sur le terrain. Et je trouve, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a vu dans notre recherche avec Marion, c'est que cette exigence, elle n'est pas vraiment tenue toujours des deux côtés. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que parce que finalement, les deux types de problématisation n'ont pas la même valeur ou il y en aurait une qui primerait sur l'autre? Mais là, j'ouvre la discussion.
Je ne sais pas si je rebondis pile poil à l'endroit où tu viens de finir. Je voudrais insister sur un point, c'est sur la question de la demande. Quand on intervient, bon, j'interviens dans les entreprises, donc mes interlocuteurs, ce n'est pas les enseignants. Hein. C'est soit une organisation syndicale, soit une direction d'entreprise. En règle générale, il y a toujours un malentendu. C'est-à-dire qu'on me pose une question à laquelle je ne peux pas répondre, je sais que je ne vais pas pouvoir y répondre. Donc généralement, je la reformule parce qu'elle n'est pas recevable dans les termes. Par exemple, l'hôpital vient me dire, la haute autorité de santé, venez nous aider à améliorer, non, à pérenniser la qualité à l'hôpital. Dans la question, il y a deux problèmes. C'est un, la qualité n'est pas définie, et deux, on suppose qu'elle est installée, qu'il faut la pérenniser. Donc évidemment, on ne peut pas partir sur une base de ce genre-là. Donc il faut tout déconstruire. Mais ça fait rien, ils ont tellement envie d'avoir des chercheurs qui viennent fournir un alibi à l'activité scientifique qui est la leur, qu'ils sont tout contents de les accueillir, même si après on ne travaille plus jamais avec eux, parce qu'on leur dit des choses extrêmement désagréables. Bon. Donc, on n'entre pas s'il n'y a pas une demande ou une commande. On a d'abord une commande qui n'est pas recevable, et on essaye de faire en sorte qu'elle devienne une demande, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas nécessairement discible, mais qui sera formulé après qu'on ait insisté pour qu'elle sorte. Et cette demande, elle n'est pas homogène, parce qu'une organisation syndicale avec des gens qui sont dans la revendication légitime le plus souvent, et une direction d'entreprise qui ne veut rien lâcher, ils n'ont pas la même demande. Donc quand on entre par l'organisation syndicale, on est vu, évidemment, avec le couteau entre les dents, par la direction, et inversement, quand on entre par la direction, on apparaît comme des social traites ou des sociaux traites, comme vous voudrez, auprès des organisations syndicales. Donc là, il va falloir s'efforcer de construire quelque chose, un espace qui n'est pas donné en tant que tel et qui ne sera jamais un espace symétrique entre les uns et les autres. C'est forcément de la dissymétrie. Et il y a de l'instrumentalisation de tous les côtés, si vous voulez. C'est pour ça que je parlais de désabuser. Enfin, je ne suis plus du tout naïf. C'est-à-dire, quand on nous fait venir, on ne nous fait pas venir pour faire progresser le savoir, progresser le chiffre d'affaires ou je ne sais pas quoi. Il y a toujours une espèce de singularité de l'attente avec laquelle il va falloir jouer. Et ceux qu'on a en face ne nous accueillent pas forcément avec le tapis rouge ou soupçonnent toujours un mauvais coup. Le nombre de consultants qui cravatés qui interviennent et qui font des rapports avec, à la fin, une charrette, alors que les gens leur ont donné un témoignage un peu ouvert, bon, ils sont extrêmement méfiants. Ils ont bien raison de l'être. Donc, du coup, on va jouer avec l'instrumentalisation. On est instrumentalisé. On va instrumentaliser. Et il y a une toile de fond politique. Je l'ai dit tout à l'heure, ma définition était rapide, mais c'est, quand j'y vais pas simplement avec une intention de produire de la connaissance. Si j'en produis de surcroît, pourquoi pas? Mais essayer dans l'instant de provoquer des dynamiques. C'est ce que j'essaye de faire. Alors, après, ces dynamiques, qu'elles se sédimentent ou pas dans l'histoire de l'organisation, c'est une autre affaire. Mais au moins provoquer une dynamique. Et cette dynamique, ça suppose la controverse. Vous avez vu, je suis rentré à rebrousse-poil d'entrée. Mais si on ne fait pas ça, il ne se passe rien. C'est lénifiant. Donc, c'est de la controverse en permanence. Alors, très souvent, une intervention qui réussit, c'est une intervention où je me fais virer. Parce qu'il s'est passé des trucs. Et s'il ne se passe rien, tout le monde applaudit à la fin en disant « c'était très bien », vous pouvez être sûr que c'est raté. C'est mon sentiment.
Est-ce que vous êtes accueilli aussi de cette manière-là? Ou est-ce que c'est une autre relation? Parce que ce côté commande, il est exprimé ou il n'est pas exprimé, mais il peut être là quand même.
J'aime bien le côté désabusé. Je crois que c'est... En fait, c'est pas si simple de rentrer dans les classes. J'ai dit que, voilà, nous, on arrive... je crois qu'on est plutôt sympathique, enfin, en tout cas souriant, et a priori, on nous ouvre la porte. Mais comme on vient, comme je le disais tout à l'heure, comme on vient dire que c'est pas forcément si terrible, on risque au fur et à mesure de perdre nos relations avec les classes et les enseignants. Donc, quand on tombe sur des enseignants qui ont envie de se lancer dans une aventure collaborative... évidemment, on est trop content et comme vous le dites, il y a un petit côté instrumentalisation, où on se dit, c'est tant mieux qu'ils soient d'accord. Et du coup, il me semble aussi qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une, il y a quand même quelque chose de très respectueux. D'être ravi d'avoir des gens qui veulent bien travailler. Moi, de très impressionnant, parfois, je dis dans l'article, moi, j'ai passé des jours fériés à travailler avec des enseignants parce que c'était les seuls moments où on pouvait se retrouver. Et quand on sait le rythme de travail d'un enseignant, d'une enseignante, on est vraiment content de ça. Mais dans le même temps, du coup, dans ce respect mutuel, se perdurent des malentendus parce que pour aller dans la controverse et être véritablement à dire bon, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'y met, c'est quoi le projet, qu'est-ce que tu as derrière la tête, etc., je ne suis pas sûre que ce soit si simple de le définir et de continuer de le définir au fur et à mesure qu'il évolue. Parce que c'est un peu ce qu'on a pu voir dans la recherche avec Valérie. Il y a quelque chose dans la symétrie où les enseignants-enseignantes sont contents d'avoir des chercheurs qui s'intéressent à leur travail. Je crois que ça revalorise, ça narcissise, et tant mieux, enfin vraiment. Et puis, quand on commence à vraiment rentrer dans le costaud de l'affaire, alors comment est-ce qu'on change, etc., il peut y avoir un peu plus de réticence, un peu plus de résistance, parce que nous, on est tout contents avec nos théories d'arriver en disant « Ah, mais peut-être qu'on pourrait faire autrement », sans nécessairement se rendre compte de... l'intense travail que ça va nécessiter. On a l'impression que ça va être très facile à mettre en œuvre. Évidemment que non. Et du coup, pour garder cette relation, on marche un peu sur des... On y va un peu avec des pincettes, ce qui fait que le discours n'est pas toujours explicite. Je pense que c'est normal aussi dans une relation de ne pas expliciter absolument tout ce qu'on fait, mais ça peut du coup entraîner certains malentendus. Et puis ce que disait Valérie tout à l'heure est très juste aussi. Comme tout le monde ne fait pas nécessairement l'effort d'expliciter d'où il parle, où il est, d'expliciter les termes qu'il utilise, les théories, tout le monde n'en est pas au même, n'a pas le même background. Tout le monde ne se comprend pas nécessairement. Et puis de temps en temps, on fait comme si on avait vu le film, comme si on comprenait, et on n'explicite pas nécessairement. Et du coup, c'est ce qu'on remarque, nous, dans les échanges entre chercheurs et enseignants. On voit qu'il y a des moments, les chercheurs, ils partent un peu dans leur sphère. Les enseignants, parfois, peut-être certainement, n'osent pas dire. Et puis, on se rend compte, quelques échanges plus loin, qu'en fait, ils n'ont pas du tout suivi, qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils peuvent être même un peu agressés. Et du coup, il me semble que ça, ce n'est pas simple.
Oui, moi, il me semble que dans ces recherches collaboratives, il y a souvent l'idée de vouloir manifester un sentiment d'égale dignité des acteurs, qui est déjà un pas considérable, mais qui évidemment ne suffit pas, parce qu'on va retrouver des dissymétries, donc une espèce de cohabitation entre la symétrie de personne à personne et la dissymétrie de ce que les gens sont capables de faire. Avec ce que disait Valérie, qui fait que les agendas des uns et des autres ne correspondent absolument pas. Et Océan 1, Océan 2, Océan 3, elle a tout à fait raison. Les enseignants, d'une année sur l'autre, ils ont d'autres élèves, ils ont à peu près oublié, alors que nous, on connaît par cœur les échanges des élèves qu'ils avaient deux ou trois années auparavant. Enfin, c'est surréaliste, cette affaire-là. Donc, il n'y aura jamais une jonction temporelle, il n'y aura jamais une mise en adéquation, tout ça. Est-ce que la solution est le fait que vous continuez à faire des recherches collaboratives et que vous en ferez vraisemblablement d'autres? Elle n'est pas dans ce que dit Gilles, c'est-à-dire que l'idée, c'est quand même une dynamique que l'on recherche, parce que les enseignants qui sont devant nous ne vont pas faire une thèse à l'issue de la recherche qu'on a fait avec eux. Est-ce que néanmoins, on ne peut pas penser qu'il y a des effets d'après-coup? Évidemment, ils ne font pas ce que disent les chercheurs d'une certaine manière, heureusement, parce qu'il leur faut le temps de se l'approprier, mais est-ce que ça veut dire que c'est comme chez nos élèves, au fond, est-ce que des années après, il n'y a pas quelque chose qui va se passer et qu'ils vont devenir des chercheurs de rétablissement, éventuellement, ce qu'on peut leur souhaiter de mieux, sans qu'ils deviennent des chercheurs professionnels? Est-ce que c'est une idée absurde ou bien est-ce qu'elle vous anime un peu?
Pour rebondir sur cette question, et ce que disait Gilles tout à l'heure à partir de l'aspect politique, avec Catherine Delarue-Breton, nous, on avait parlé du projet de société qui sous-tendait les recherches collaboratives. Et il me semble que dans les recherches collaboratives, les chercheurs ne poursuivent pas les mêmes objectifs d'un chercheur à l'autre entre eux. Pourquoi est-ce que je fais de la recherche collaborative? Et il me semble que pour certains chercheurs, et je pense notamment à Catherine, un des enjeux, c'est de mieux former les enseignants à la recherche, c'est-à-dire qu'ils deviennent autonomes dans l'utilisation des connaissances scientifiques. Mais ça, il me semble que ce n'est pas un postulat ou une visée qui est partagée par tout le monde. D'autres, c'est plutôt la dimension d'amélioration des pratiques et qu'ils soient plus efficaces dans une situation. Et puis, il y a des auteurs qui prennent le parti de dire la partie recherche, c'est les chercheurs, la partie plutôt pratique, ce sont les enseignants. Et donc, du coup, chacun a ses spécificités et d'autres qui cherchent à avoir plus de porosité entre les aspects recherche et les aspects pratiques. Donc, il me semble, moi, c'est ce que j'ai écrit plutôt sur la fin de l'article, qu'il y a deux dimensions. Il y a ceux qui veulent plutôt former par la recherche, c'est-à-dire notamment par des dispositifs de recherche comme les recherches collaboratives pour engager des discussions, des analyses de pratiques, et ceux qui veulent plutôt former à la recherche, c'est-à-dire à la pratique, à l'utilisation des concepts scientifiques, de cadres théoriques pour aussi pouvoir les utiliser dans le cadre de sa classe.
Il y a un certain nombre de choses qui ont été dites et sur ces questions d'asymétrie, en fait, je pense que c'est quelque chose qui en fait revient souvent dans nos discours. Et qu'on a un peu étudié du point de vue de la recherche, en fait, ces derniers temps. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. En gros, c'est si on construit ces groupes avec des identités professionnelles différentes, qui ont souvent besoin d'être situées, en fait, sur des contextes spécifiques d'exercice, parce que ça, c'est quelque chose qui est compliqué. Juste pour préciser, en fait, pendant très longtemps, j'animais des groupes, en fait, collaboratifs au collège, au lycée, qui ne communiquaient pas entre eux. Jusqu'au moment, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé. On les a fait discuter entre eux. Alors, je crois que c'est une de mes plus belles réussites, en fait, qui est... c'est pas un prix Nobel, je précise. C'est le jour où on a mis les enseignants de ces deux types d'établissements différents ensemble. On a construit des activités légèrement différentes, adaptées, en fait, aux enjeux scientifiques, en fait, au collège et au lycée. Et le jour où les enseignants de lycée ont voulu réaliser les séances dans leur classe... Ils sont revenus après et ils nous ont dit « En fait, on a pris des séances collège parce qu'elles étaient quand même vachement mieux que les nôtres. » Et là, c'est quand je parlais de hiérarchie aussi, là, les enseignants de collège en fait, se sont sentis très valorisés et du coup, maintenant, on a un groupe commun. Bon, alors, je précise, ça, c'est ma plus belle réussite. Par contre, on a dû mettre dehors les enseignants d'université. Je ne m'étalerai pas sur la question. Enfin, sauf moi. quand même. Et ce que je voulais dire, c'est que sur ces asymétries qui sont importantes, en fait, ce qu'on voit, c'est que au fil des discussions, donc nous c'est pareil. Alors, non seulement on enregistre ce qui se passe dans les classes, on enregistre aussi ce qui se passe en réunion et on regarde ce qui se passe en réunion. Et des fois, quand on regarde 3 ans après ce qui se passe, on est un peu interpellé en disant mais ça vient de là en fait le problème. On a énormément d'asymétries qui se manifestent par les termes utilisés, par des positions que les gens prennent. On s'est particulièrement intéressé, ça c'est peut-être le laboratoire d'appartenance Ficar qui est en sciences du langage, mais aux asymétries en termes de langage. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en réalité, même si le groupe, les gens se connaissent depuis longtemps, ces asymétries, elles sont souvent évitées par les uns et par les autres, hein, pas que par les chercheurs. Parce qu'en gros, ben voilà, tout d'un coup, en fait, le chercheur va dire quelque chose, on essaye de faire attention à ce qu'on dit, mais on va dire quelque chose, et puis les enseignants ne comprennent pas tout à fait bien. Et puis en fait, les enseignants, à la place de se dire « je suis un peu bête, en fait, peut-être, j'ai pas compris ce que vous avez utilisé comme mot, donc ça les positionne mal, donc ils vont éviter de dire « j'ai pas compris le mot que tu utilises ». Les chercheurs, ça fait des années qu'ils travaillent avec des praticiens, quand le praticien dit quelque chose en particulier, c'est pareil, il va éviter de dire « je comprends absolument pas ce terme que tu as dit ». Donc c'est comme si on lissait le tout, qu'on faisait semblant d'être d'accord la plupart du temps, jusqu'au moment où ça devient trop énorme, en fait, le truc qui est entre nous et qui génère de l'incompréhension. Donc c'est des questions d'insécurité linguistique. J'ai appelé ça aussi une espèce de réticence didactique en fait, dans le groupe, en fait, où le chercheur, moi en particulier, en fait, c'est très drôle, on a étudié tout ce que je racontais pendant un an. C'est très drôle d'étudier ce qu'on fait. Et je n'ai jamais cité le concept central de mes recherches. Je ne l'ai jamais prononcé. Et à la fin de l'année, je leur avais quand même dit « jamais vous utilisez ce truc-là ». Puis en fait, les enseignants étaient assez surpris parce que je n'en avais jamais parlé. Donc voilà. Et c'est quelque part aussi pour éviter peut-être des conflits qui n'en sont pas, mais c'est dans ces conflits qu'on apprend et qu'on apprend, enfin, vous savez, sur les conflits cognitifs, en fait, en gros. Si on les évite, on n'apprend rien. Donc là, on les a mis sur le tapis. Donc on a généré des objets qu'on appelle bifaces, en fait, sur lesquels chacun va s'empoigner un petit peu avec son domaine, ses spécificités professionnelles. Et puis, ce n'est pas grave. En fait, bon, c'est voilà. Donc il se passe des choses, des fois pas très agréables, où les enseignants vont complètement redéfinir nos concepts, mais on l'accepte. Et puis des fois, on va reprendre les objets des enseignants. Mais voilà, c'est pareil, c'est générer un petit peu du conflit. Alors, on a appelé ça comme ça, mais du conflit sain. Et donc de la controverse qui doit aboutir à quelque chose de nouveau. Et juste pour conclure, j'ai été trop longue. Ce quelque chose de nouveau, là, maintenant, il nous interpelle. Parce que si c'est quelque chose de nouveau qui fonctionne bien dans notre groupe, mais qui n'a de sens ni dans la communauté des chercheurs, ni dans la communauté des praticiens, en fait, en gros, il est utile à qui ? En fait, à nous, c'est déjà beaucoup. Hein. Mais voilà, là, c'est ce qui nous questionne, c'est OK, et comment on fait pour aller après ?
Alors, on a longuement réfléchi, hein, vous imaginez, quand on cherche un titre d'un numéro, c'est toujours compliqué de trouver les bons mots. Donc, toutes les questions que vous êtes posées, l'asymétrie, voilà, est-ce qu'on met tout à pied ? Donc, on a fini par trouver, alors, en cherchant à plusieurs, il n'y avait pas que nous deux, mais on a testé des choses, chercher ensemble nous paraissait finalement quelque chose d'assez consensuel. Alors, pas très peut-être problématisé, mais en tout cas, ça se voulait assez consensuel dans les échanges. Mais on l'a sous-titré quand même. Alors, on a longuement hésité sur le choix des mots, parce qu'au début, c'était « Comment ça match ?» Hein, c'était une tentative hein, de sous-titre « Comment ça match ?» Et on a fini par « Projet, rencontre, imprévu et découverte ». Et finalement, c'est les deux derniers mots qu'on aimerait vous interroger dessus, c'est ces mots « imprévu et découverte ». Alors, c'est vous qui choisissez comment vous interprétez ces mots-là, mais de dire, voilà, il y a forcément des imprévus, il y a aussi des découvertes. Valérie, est-ce que c'est quelque chose voilà, qui fait partie de ta pratique à toi, d'être confronté à de l'imprévu et à des choses qui, voilà, qui surgissent ?
Alors, bien, je dirais que si on va dans ce type de recherche, c'est peut-être justement parce que c'est ce qu'on recherche, en fait. Et je me disais, par rapport à ce que vous disiez, il y a effectivement peut-être le côté « on forme à et par la recherche ». Mais moi, je dirais que ce que je trouve le plus intéressant, c'est peut-être pas tant de mieux former les enseignants à la recherche ou d'améliorer les pratiques, mais d'enclencher des dynamiques, comme vous le disiez, d'apprentissage de part et d'autre. Et finalement, qu'est-ce qui fait kiffer un chercheur ? Bah, c'est justement d'apprendre. Et qu'est-ce qui aide un enseignant aussi à retrouver du sens ou à retrouver de l'envie dans son travail ? C'est aussi de lui offrir des occasions d'apprentissage à partir de ce que font ses élèves. Et ça, moi, je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui tient ces recherches, c'est-à-dire une double découverte. Alors, pas sur les mêmes points, sur les mêmes objets, mais le chercheur comprend mieux ce qui se joue peut-être dans ces relations entre les élèves et les enseignants. Et puis, ben, l'enseignant, pas toujours sûr qu'il comprenne mieux ce qui se passe pour le chercheur, mais il retrouve une nouvelle manière en fait, de regarder son travail et puis d'en apprendre quelque chose. Et on voit souvent que les enseignants, après ce type d'expérience, ils ne s'arrêtent pas là, en fait. Ils ont envie d'autre chose, ils ont envie de continuer à se nourrir. Et alors, ils sont tout à coup prêts à nous accompagner pour monter des formations. Ils sont tout à coup prêts à, dans leur établissement, partager avec d'autres collègues ce qu'ils ont eux-mêmes découvert dans ces temps de partage. Et moi, si je devais dire ce qui me motive aujourd'hui à m'acharner, malgré toutes les difficultés que je rencontre, je pense que c'est vraiment cette dimension-là.
Gilles, du coup, est-ce que le côté dynamique, au-delà du désabusé, que je mets un peu...
Ouais. Quoi, est-ce que... Mais ça peut être un moteur aussi, hein, ça peut être un moteur, le fait d'être un peu désabusé. L'imprévu, il est omniprésent. Enfin, bon, je crois comprendre que là où vous intervenez, il y a une forme de familiarité, c'est l'enseignement, etc. Moi, je peux intervenir dans une entreprise de la chimie, dans la plasturgie, à l'hôpital, dans un établissement scolaire. Et donc, à chaque fois, c'est l'imprévu absolu. Je ne connais pas le boulot. Donc, je n'ai rien à leur dire sur leur boulot. Par contre, la présence des intervenants, s'il y a un dispositif, j'allais dire un dispositif méthodologique, même pas, c'est une posture. Il y a quelques éléments de récurrents dans le dispositif méthodologique, mais ce qui importe, c'est la posture. Posture intersubjective, bon, j'appartiens à un courant, enfin, je me reconnais dans un courant qu'on appelle la sociologie clinique, qui consiste à créer autant que possible, non pas de la symétrie, mais une forme d'horizontalité dans les formes de savoir. Moi, je connais rien à la plasturgie, le plasturgiste qui est en face de moi connaît rien à la sociologie, et il va falloir qu'on fasse des trucs pour peu qu'il en ait envie, pour peu qu'il soit demandeur, des trucs ensemble. Les trucs, c'est quoi ? Je disais, c'est politique. Comment faire en sorte que pour ceux qui sont dépourvus de pouvoir dans une organisation, dépourvus de possibilité de prendre la parole, dépourvus d'oreilles, personne ne les écoute, comment créer des situations pour que ces voix-là soient entendues ? Alors, vous voyez, c'est extrêmement politique. C'est pour ça qu'il y a un malentendu tout le temps. Parce que quand une direction nous fait venir, est-ce que vous pouvez venir accompagner la dimension culturelle de nos changements de métier ? Patati, patala, très bien. Mais ça veut dire quoi pour les gars ? Ça veut dire que le boulot ne va plus être le même. Pour des cadres de haut niveau, ils n'osent même pas la ramener parce que c'est une décision ministérielle et s'ils la ramènent, ils se font taper sur les doigts. Donc, ils ne peuvent même pas prendre la parole. Dans le bouquin qu'on a écrit avec Bruno, on raconte ces situations-là où vous avez une quarantaine de directeurs de service, des ingénieurs des mines, TPE, muets devant des situations qu'ils ne supportent plus, quoi. Ils sont muets. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire ? De mettre des coups de pied dans la fourmilière. Et alors, pour mettre des coups de pied dans la fourmilière, d'une certaine façon, il faut des postures méthodologiques qui ont été un peu travaillées, analysées par les cliniciens, quelques points de repère sur comment on crée des espaces collectifs, soit sous forme d'assemblée générale, soit sous forme de groupe de méthode. C'est jamais pareil. Donc, la surprise est toujours au rendez-vous. On ne donne jamais à la fin de prescription. Comment je pourrais aller prescrire à un plasturgiste ce qu'il faut qu'il fasse ? J'en sais strictement rien. Par contre, au fur et à mesure de nos déambulations, qui peuvent durer quelques mois, voire plusieurs années, on recueille, façon liste à la Prévert, toutes sortes de propositions. Alors, la proposition de la direction qui veut réduire la ligne hiérarchique et la proposition du type qui est aux manettes, c'est évidemment pas la même, quoi. Et alors, on fait une liste à la Prévert. Et on organise des controverses autour de ça. Alors, c'est pour ça qu'on se fait virer souvent par les équipes de direction qui n'imaginent pas qu'on va faire ça. Vous voyez ils le savent, mais non, c'est ça qui est. Parce que j'ai écrit depuis 20 ans sur ces questions-là et le malentendu continue d'exister. Et c'est formidable qu'il existe. Et je n'entends pas faire le clair ou la clairvoyance au commencement. J'entre dans l'affaire pour. Très, très égoïstement y prendre du plaisir, parce que je prends du plaisir à travailler comme ça, et pour politiquement essayer, avec un rien d'utopie, de faire en sorte que le pouvoir qui interdit qu'on évoque certaines choses, qui invisibilise des problèmes qui pourrissent la vie à tout le monde, que ça puisse être parlé, quoi.
Mais je pense que ça parle pour ceux qui connaissent un peu l'éducation et l'organisation des écoles, des collèges, des lycées, etc., et de comment l'institution est organisée. Je pense que ça parle beaucoup à...
Oui, oui, je peux raconter des interventions dans des établissements scolaires de cet ordre-là. On n'est pas dans l'industrie, mais ça fonctionne pareil.
Voilà. Marie.
Ouais, moi, je voulais, pour répondre à Patrick, l'imprévu et la découverte, je crois que c'est ce qui fait le moteur de la dynamique dans la manière dont les enseignants, enseignantes et les chercheurs continuent de se mobiliser dans ces espaces. Après, ce qui m'interroge, c'est comment est-ce qu'on soutient la dynamique ? Parce qu'on a l'impression que la dynamique, elle s'installe dans la rencontre et justement dans l'imprévu et la découverte des uns et des autres. Mais moi je travaille en collaboration avec des enseignants, je peux les compter une dizaine d'enseignants maxi parce que je peux pas faire plus en fait, mon emploi du temps me le permet pas. Et je trouve que ça vaudrait vraiment le coup de se poser la question, non pas d'augmenter mon emploi du temps, je vois Patrick, mais de comment est-ce qu'on se saisit en fait de ces dynamiques qui sont... soit en veille, soit potentiellement présente chez tous les enseignants et enseignantes, et que ces espaces n'existent pas ou pas beaucoup. Il y a peu d'espaces pour que les enseignants et enseignantes puissent dynamiser leur professionnalité, leur professionnalisme. Non, mais il n'y a pas ces espaces existent très peu par une organisation qui ne met pas du tout ça en avant, alors que quand on les entend, ils apprécieraient. Et quand ils essayent eux-mêmes de le faire à l'intérieur de leurs établissements, ils rencontrent parfois certaines résistances, du coup, ça les décourage. Et parce que je pense que c'est compliqué, justement. Alors, pour le coup, dans un rapport très symétrique, que certains puissent dire « Ah, mais j'ai appris des choses », etc., il peut y avoir des effets de concurrence, de place qui se jouent. Et je trouve que l'institution éducation nationale devrait vraiment se pencher sur la question. À mon avis, ça dynamiserait peut-être pas dans le bon sens selon les autorités pensantes, mais je pense que ça ferait du bien et ça ferait du bien au métier que ces espaces soient intégrés à la professionnalité des enseignants et des enseignantes.
Oui, alors, peut-être une question qui n'a rien à voir, mais tant pis pour vous, ça me fait réfléchir au fur et à mesure. Donc, je me disais que là aussi, nous sommes dans une forme d'exclimétrie ce soir. Nous interrogeons beaucoup sur ce que ça fait aux acteurs de terrain. Est-ce qu'ils sont pris en otage? Est-ce qu'ils en profitent? Pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas en œuvre les bonnes résolutions qu'on essaie de prendre avec eux, etc. Mais est-ce qu'on ne sous-estime pas aussi ce que ça fait aux chercheurs? Parce que je prendrai deux exemples. Il me semble que aussi bien Charles que Valérie essayaient de faire de la catégorisation. Par exemple, voilà, il y a les référentiels frontières, il y a les référentiels bifaces, voilà, qui sont une manière de mettre de l'ordre dans cette myriade. Il nous a donné un peu la clé de la solution qu'il a trouvée. Il y a une infinité de manières de faire de la recherche collaborative. Et il nous propose deux notions qui, magiquement, mettent de l'ordre là-dedans. On respire, il y a du référentiel, il y a du biface. Sauf que quand on regarde, par exemple, ce que dit Karine, elle dit, voilà, les chercheurs, à la fois, ils produisent des savoirs pour les enseignants, mais ils produisent aussi des savoirs pour eux-mêmes. D'une certaine manière, on a les deux à la fois. Et que dans la réalité, les catégories sont tout le temps prises à contre-pied, parce que c'est des abstractions, elles rendent compte d'une partie, c'est une façon de penser séparément ce qui n'est pas donné séparé, pour revenir à la définition, mais dans le vrai monde, ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, ça ne marche pas en tant que tel. De la même manière, Tetris, Jenga, Domino, Puzzle, les modalités de jeu très sophistiquées que Valérie et Marion donnent pour comprendre la façon dont les enseignants et les chercheurs essaient de trouver des modalités d'arrangement pour faire de la recherche, dit « ouais, ça marche, mais ça ne donne pas non plus la signification de l'activité que ça revêt pour les acteurs ». Donc, il me semble qu'on est sans arrêt renvoyé que les chercheurs eux-mêmes ont à gagner à ça. Je crois que ce n'est pas un jeu dans lequel il y a un gagnant et un perdant, ou par une espèce d'extrême bienveillance, les chercheurs accepteraient que des gens qui ne savent rien viennent travailler avec eux, mais ils ont, je crois, un intérêt vital. C'est un peu ce qu'Antoine Pro, quand il a fait, il y a quelques années de ça, pour le compte de l'INRP à l'époque, une enquête sur l'état de la recherche en éducation en France, disait qu'il faudrait que les recherches soient davantage contextualisées. Moi, c'est un peu ce que j'entendais déjà, cette idée qu'il faudrait voir ce que ça donne après, et y compris pour la recherche. Voilà. ils ont besoin d'être contextualisés, ce qui est un des problèmes des recherches de laboratoire qui ne font pas ça. Alors, Grégoire Bors, dans mon numéro, hein, je livre un peu de suspense, nous dit comment son point de vue a bougé. Hein, au contact du terrain, il a été obligé de changer sa façon de voir. Et là, je crois qu'il y a vraiment un effet sur la recherche. Je ne sais pas si j'en pense une porte ouverte ou si vous pourriez illustrer ça, l'exemple, ou le contredire, bien sûr.
Alors, en fait, je voudrais juste. En fait, je crois que c'est. Il me semble qu'on a écrit ça dans la conclusion d'un article qu'on vient de publier sur les recherches. On a travaillé sur la créativité des enseignants quand on leur donne un guide de conception pour faire quelque chose. Donc on réinterroge, alors on terminait sur la parole d'un enseignant qui disait c'est chouette en fait les contraintes en fait parce qu'il le voit comme ça parce que les contraintes ça peut rendre créatif. Et après la question qu'on s'est posée et qu'on se pose actuellement c'est ok on a beaucoup travaillé sur la créativité des enseignants dans ce guide de conception mais la créativité des chercheurs hein, en fait on pourrait peut-être la questionner. Et là en fait on est en train de mettre en évidence quelque chose, alors, c'est un truc, bon, je suis désolée, juste parler un peu politique mais on peut là. On a travaillé ces derniers temps en fait, sur des questions autour du changement climatique. C'est des questions qui sont importantes. Et quand on a commencé à travailler avec les enseignants, ça fait partie des découvertes qui crispent. Quand on leur a dit on voudrait travailler sur le changement climatique à partir d'une bande dessinée, et en fait, tous les enseignants, unanimement, nous ont dit oh, on va travailler avec la BD de Janko. Et là, en fait, bon, ça se voit sur ma tête en fait, dans la vidéo. Où je... voilà, j'ai dit, c'est pas une BD, il n'y a pas de scénario. Mais bon, passons. Et puis en plus, c'est quand même... bon. Une ode à la... Voilà, donc voilà, j'arrête là. Et donc j'étais un peu embêtée. Et en fait, voilà, sur cette... Et on sent en fait toutes les valeurs du chercheur. C'est très désagréable de travailler sur soi. Mais qui s'exprime à travers des mous, des choses où je dis... Ouais, bah. Puis en fait, je pense que je casse systématiquement toutes les propositions d'activité autour de cette bande dessinée qui a fini par être utilisée. En fait, du coup, on a une vignette de la bande dessinée qui est utilisée comme document 4 annexe en fait, à l'activité principale, histoire de bien l'invisibiliser. Et donc là, c'est l'occasion de faire de la pub pour ce que je fais maintenant, parce que je travaille avec d'autres auteurs de bande dessinée qui ne travaillent pas du tout dans le même truc. Donc c'est Xavier Henrion et Iris Amatadion, en fait, qui une BD qui s'appelle Horizon climatique, rencontre avec des experts du GIEC, hein, qui n'est pas du tout dans ce format-là, qui est une vraie bande dessinée avec un scénario. Et là, en fait, je pense qu'on va pouvoir retravailler avec cette créativité du chercheur et en fait, finalement, encore... ce guide et tout ce qu'on a fait, en fait, nous rend aussi créatifs. Donc, ça nous a renvoyé la balle de, finalement, c'est bien beau de travailler sur ce que font les enseignants, mais on les contraint beaucoup. Et pourquoi, nous, on les contraint ?
Moi, je pense que c'est normal que ces recherches stimulent la créativité des chercheurs, parce qu'il me semble que ce sont les chercheurs qui ont inventé ces dispositifs. On a eu un exposé de Virginie, j'ai une formation à l'IFE en même temps, donc j'ai couplé ma visite lyonnaise. On a eu un exposé de Virginie qui revenait sur les origines de ces rapprochements entre les terrains de recherche et les... Et puis, bah, nous, ce qui nous intéresse ici, les professionnels de l'éducation. Mais c'est souvent une question, des questions qui viennent aussi de la recherche. Et donc, les chercheurs se sont questionnés comment est-ce que... Bah, vous avez une formule, mais je ne l'ai plus exactement, avec Agnès Van Zanten, je crois, les recherches en éducation, elles doivent poursuivre une double légitimité, à la fois une légitimité scientifique et puis une utilité sociale. Et finalement, la dimension d'utilité sociale des recherches en éducation, à un moment, elle a été questionnée, puisqu'on s'est rendu compte, quand on lit tous ceux qui ont, que ce soit Lewin, Desgagnés, etc., tous les auteurs qui... montent des dispositifs, donc nous, ce qu'on appelle de manière globale des recherches collaboratives, ils se questionnent sur cet éloignement entre la recherche et la pratique, donc ils montent des dispositifs de recherche collaborative, et donc forcément, ça va stimuler pour moi leur créativité pour se demander mais est-ce que ça, finalement, ça favorise ce rapprochement entre la recherche et les terrains. Donc je pense que forcément, ces dispositifs de recherche collaborative, ils questionnent les chercheurs.
Comme vous voulez, sinon on enchaîne avec les... Je propose qu'il y ait un échange avec les gens qui sont réunis ici.
Un dernier mot sur cette question. Je me demande s'il n'y a pas une... Enfin, en tous les cas, de la manière dont on travaille avec mon collègue Bruno Milly, je me demande s'il n'y a pas une analogie avec les démarches analytiques ou psychanalytiques. Si vous voulez. Je pense qu'il y a un moment où, toute proportion gardée, hein, j'essaye d'avoir une image, quand le psychanalyste est avec son patient, il tente d'aider le patient dans des jeux contre-transférentiels, etc. Puis après, il y a un après-coup. Il y a un après-coup où il reprend ce matériau qui n'aura pas d'utilité pour le patient, qui aura de l'utilité pour les collègues psychanalystes. Toute proportion gardée, il me semble que dans l'intervention,
telle que je la comprends, en tous les cas, c'est comme ça qu'on procède. C'est-à-dire que s'il s'agit d'engager des dynamiques collectives, ce n'est pas à coup de conceptualisation que je vais y arriver. Par contre, que ce qui s'est joué sur le terrain puisse venir alimenter dans un autre temps et dans un autre champ la réflexion théorique, pourquoi pas ? Voilà. Donc je me demande s'il n'y a pas quelque chose à distinguer entre le moment où on fabrique quelque chose en situation, ce quelque chose à dimension politique qui doit être une forme de dynamique, et puis le moment où, reprenant ces éléments-là, dans un autre espace, où on peut rentrer aussi en controverse avec des collègues, mais ce n'est plus le même exercice, on participe de la production d'une forme de connaissance, qui n'est plus la même, mais qui en est une autre. Mais ça suppose un autre temps.
Je terminerai en disant, je pense qu'il y a un vrai enjeu à, finalement, quand on travaille avec les entre chercheurs et praticiens, c'est finalement de jouer à un jeu à somme non nulle, parce que c'est souvent quand même un peu ça qui se joue. Et même quand j'entendais Karine avant en disant, des fois, à quel jeu on joue nous aussi chercheurs, parce qu'on a peur de nos concepts, enfin, on se dit qu'ils ne vont pas être compris, donc on les cache, on utilise d'autres mots, on essaie de les simplifier, mais en fait, ils sont incorporés en nous et on les utilise pour lire les situations, pour comprendre ce qui s'y joue. Donc, est-ce que vraiment on donne toutes les cartes aussi aux personnes avec lesquelles on travaille pour qu'on puisse réellement se dire les uns les autres ce qu'on voit de ce qu'on fait ensemble? Et je sais que je vois Patrick là, qui souvent il dit faisons vraiment cet exercice et acceptons que chacun dans notre langage, on va mettre sur la table ce qu'on voit, ce qu'on comprend, ce qu'on lit de l'activité de l'autre. Mais c'est comme si on se gênait à le faire. Et du coup, on joue à des jeux à somme nulle, alors qu'on devrait plutôt essayer de jouer à des jeux à somme non nulle, en faisant le pari que si nos concepts ne sont pas très clairs, c'est peut-être à nous de mieux les transposer ou les expliciter.
Je vous remercie tous les cinq ici, et Léo à distance. Merci Patrick pour cette collaboration, un compagnonnage de quoi, 6 mois à peu près, un peu plus peut-être même. Voilà, où ça a été à la fois des formes de consensus et controverses. Mais bon, généralement, on était assez d'accord sur le fond et sur la forme de ce qu'on recevait. Et ma foi, c'était un vrai plaisir de pouvoir faire cette aventure tous les deux autour de ce numéro. Je conclue simplement pour dire aussi que c'est le... Alors, ce n'est pas le dernier numéro de la revue, ce n'est pas ça que je voulais dire, mais c'est le dernier numéro qui est diffusé via Prairial et qui est construit sur cette plateforme de diffusion de revues. À partir du prochain numéro, donc on le présentera en mars, on sera sur Open Edition et on sera édité du coup par ENS Edition aussi. Voilà. Donc on sera chez l'éditeur maison et on sera aussi diffusé par une plateforme, j'allais dire des revues beaucoup plus classiques et ouvertes. Je ne dis pas que Prairial n'est pas classique et n'est pas ouvert. S'ils m'entendent, je pense que je ne me ferai pas des amis. Et donc, on va organiser la transition, j'allais dire, d'une plateforme vers l'autre à partir de la semaine prochaine, puisqu'on a eu la réponse de Open Edition il y a 3 semaines à peu près. Donc voilà, donc la revue continue à évoluer et à s'enrichir. Le prochain numéro portera sur un autre sujet, tout aussi politique à mon sens, en tout cas c'est le choix qu'on a fait de l'aborder ainsi, puisque ce sera sur l'éducation populaire, voilà, qui a des valeurs qu'elle a développées dans son histoire et puis qui peut se perdre pour certains dans le modèle économique qu'on leur impose. Et en tout cas, je peux vous garantir que un entretien d'ouverture avec Mathieu Elie et Maud Simonet sera très tranchant sur ces questions-là, puisqu'on y parle du travail en fait et du travail gratuit. Voilà. Bon, bref, je dévoile pas trop, donc ça sera au mois de mars et on sera donc, du coup, on aura fait ce transfert et cette transition, comme on dit aussi aujourd'hui, quand on parle d'autre chose. Voilà, je vous remercie de votre présence à distance et en présence et je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée.